Ésaïe, chapitre 44, verset 28. Donc, quelqu'un peut lire ce verset.
Ésaïe 44, verset 28. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger.
Amen.
Il accomplira toute ma volonté. Amen. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé.
Amen. Et puis, chapitre 45, 1 à 5.
Ésaïe 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son point.
Amen. Amen.
On se lève promptement. Oh. Verset 2.
Et on lit.
Verset 2. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui couvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins. Mon Dieu, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer.
Amen.
Verset 3, je donnerai des devants cachés.
Amen.
Des richesses enfouies.
Amen.
Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle ton nom.
Par ton nom. Amen.
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 Amen. À cause de mon serviteur Jacob,
Amen.
Et d'Israël que j'ai choisi,
Amen.
Je t'ai appelé par ton nom.
Amen.
Je t'ai donné un rang d'honneur,
afin
que tu ne me connaisses.
Amen.
Je suis Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Or moi, il n'y en a point de Dieu.
Amen.
Et enfin, selon sa soleil de vent, soleil du champ, selon que, oh, moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre.
Voilà. Ok. Et puis, Esdras, chapitre 1. Tout le chapitre, si vous pouvez. Esdras, chapitre 1, tout le chapitre. Amen.
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 Tous les alentours, leurs colères, des objets d'argent,
amen.
De l'or,
amen.
Des épées,
amen.
Des détails,
amen.
Des choses précieuses,
amen.
Toutes les offrandes volontaires,
amen.
Le roi Cyril se rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison du Dieu.
Amen.
Le Cyrus, roi de paix,
amen.
Les fils sortis par Amitréba, le trésorier, le compta à Bata, prince de Juda.
Verset 9.
Amen.
Le nom. Prends partir d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux.
Amen.
29 couteaux.
Amen.
Amen. Verset 10. Un coup d'or, 410 coups d'argent, de second ordre, 1000 autres ustensiles.
Amen. Amen.
Verset 11. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 7400. Cette bassin emporta le coup du Babylone à Jérusalem pour le coup de la captivité.
Amen.
Amen. Donc, nous sommes finalement arrivés à Esdras. N'est-ce pas? Parce que, justement, le retour du peuple de Juda se passe, a lieu, effectivement, dans le livre d'Esdras. Mais, ce qui m'a frappé, c'est que le retour de la captivité commence bien avant. Vous voyez, et ça, nous ne le voyons pas. Beaucoup de, n'est-ce pas, quand nous lisons Esdras, nous croyons que c'est à ce moment-là que le retour a commencé. Mais nous avons vu ces derniers jours comment Dieu était en train de préparer des vases, n'est-ce pas, pour que son peuple puisse retourner. Donc, le retour de la captivité n'est pas aussi simple que ça, n'est-ce pas? Ça n'arrive pas comme nous le pensons. Ok, on se lève et on fait l'église. Bon, mais là, il y a beaucoup de croyants qui font ça. On va faire l'église. Et voilà, donc, pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de... Oui. N'est-ce pas? Oui. Et c'est trop facile de faire ça. Non. Dieu ne s'intéresse pas à un édifice. Il ne s'intéresse pas à une tour. Et ça, c'est la tour de Babel, n'est-ce pas? Il ne s'intéresse pas à une tour. Mais il s'intéresse à l'homme. Il s'intéresse à des vases, des cœurs qui puissent être gagnés par lui. Et si nous pouvons comprendre cela, ça va nous sauver de beaucoup de malheurs, beaucoup de frustrations. Même quand nous voulons œuvrer pour le Seigneur, nous voulons prêcher l'Évangile, nous voulons faire quelque chose, n'est-ce pas? Et nous prêchons, nous prêchons, nous prêchons. Et il y a très peu de fruits. À ce moment-là, ce sera une épreuve. N'est-ce pas? Est-ce que nous allons abandonner? Nous allons nous décourager? Nous allons, n'est-ce pas, lever les mains, n'est-ce pas, mettre les mains dans l'air pour dire, personne n'est ouvert. Voilà, on... Aux États-Unis, n'est-ce pas, il y a souvent ce maxime, il est devenu même un maxime qui dit que les Américains, c'est-à-dire les vrais Américains, ne sont pas ouverts à l'Évangile. Mais les Chinois, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de frères chinois qui ont été attirés, les Asiatiques, sont ouverts. Parce que la majorité de la population des églises aux États-Unis est, on peut dire, chinoise, n'est pas américaine. Et quand je dis américain, il faut qualifier, parce que qui est un vrai américain? C'est pas, n'est-ce pas, les américains, n'est-ce pas, c'est comme un, c'est tout le monde, n'est-ce pas, qui a immigré, n'est-ce pas, et est devenu américain, donc de toute race. Mais je veux dire, ceux qui sont, bon, les caucasiens, on peut dire, hein, ceux qui sont là, difficile de les atteindre. Et même on a peur de les atteindre parce que beaucoup rejettent, n'est-ce pas, et ils sont satisfaits, ils sont contents, n'est-ce pas. Tandis que beaucoup, beaucoup d'immigrés, beaucoup d'étudiants, beaucoup de, n'est-ce pas, des autres pays viennent, ils cherchent quelque chose, n'est-ce pas, ils n'ont pas leur famille avec eux, n'est-ce pas, ils sont seuls. Alors, c'est eux qui acceptent plus, n'est-ce pas, l'évangile. Or, on a dit, ah, les Américains, n'est-ce pas, ils ne sont pas ouverts. Et donc, c'est facile de même de cesser de prêcher l'évangile, n'est-ce pas, à eux. Bon, et ça, c'est quelque chose qui peut nous frustrer dans la vie de l'Église. Quand nous nous efforçons, nous faisons, n'est-ce pas, nous œuvrons, et nous ne voyons pas les résultats, nous ne voyons pas beaucoup de fruits, à ce moment-là, le Seigneur veut nous éprouver. Qu'est-ce que nous voyons? Quel est notre but? Quel est notre, où est notre cœur? Où sont nos yeux? N'est-ce pas? Est-ce que nos yeux sont fixés sur les résultats ou sur le Seigneur? Est-ce que, bon, nous voulons bâtir quelque chose, mais Dieu veut se bâtir en nous. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, nous avons vu cela. Alors, je me souviens toujours quand je venais d'entrer dans la vie de l'Église et j'étais un peu zélé et, n'est-ce pas, prêcher l'Évangile. Et il y a un frère qui a témoigné dans un rassemblement. Il a dit que c'est celui qui servait à plein temps à l'époque. Il a dit qu'il avait prié le Seigneur de lui donner quelqu'un qui ne soit pas ouvert à l'Évangile. C'est-à-dire que qui ne l'accepte pas tout de suite. C'est-à-dire quelqu'un qui pouvait, avec qui il pouvait, qui pouvait accompagner, qui pouvait œuvrer pour lui apprendre à vraiment à œuvrer. Parce que c'est trop facile d'attendre des résultats. Vous parlez, quelqu'un est sauvé. Ah, ça marche. Bon, ça c'est bien, n'est-ce pas? Je suis évangéliste. Hein? Jusqu'à ce que vous prêchiez à quelqu'un qui n'est pas ouvert, qui refuse, à ce moment-là, vous grandissez. Quand vous avez les résultats, vite, rapide, vous n'allez pas grandir autant. Ça vient trop facilement, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas expérimenté, vous n'avez pas passé par un processus d'échec, de frustration, de quoi? De difficultés, d'obstacles et de prières. Même, il semble que vous n'avez même pas besoin de prier, n'est-ce pas? Vous parlez, quelqu'un, il reçoit. N'est-ce pas? Mais c'est quand quelqu'un n'est pas ouvert, ou quelqu'un il est dur, ou il ne s'intéresse pas. Vous l'appelez, vous l'invitez, il dit, ah, je suis occupé, peut-être la semaine prochaine, vous l'appelez encore. Oui, mais vous savez que maintenant je suis vraiment très occupé. Au travail, on est en train de faire quoi? Une enquête. Non, c'est audit. Audit, c'est ça. Une audit. Alors, c'est vraiment. Appel audit. Vous voyez, je vous assure, après quelques semaines, vous allez vous décourager. Parce que. N'est-ce pas? Bon, maintenant, avec le cellulaire, n'est-ce pas? On ne raccroche plus le téléphone. Mais appeler quelqu'un après 3 ou 4 refus, ça devient de plus en plus difficile. Et je sais très bien, parce que ça m'arrive très très souvent. Ah, si je l'appelle maintenant, il va dire il est encore occupé. À quoi bon? Et d'ailleurs, je ne veux pas l'ennuyer. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui arrive? Je l'oublie. Il devient l'un de plusieurs personnes oubliées, laissées tomber. Et vous pouvez faire une liste, si vous faites une liste. J'en faisais, je l'ai fait plusieurs fois, une liste de tous les contacts, tous les gens que, n'est-ce pas, j'ai contacté, relisez, allez à cette liste et vous verrez tous les gens. Même nous avions, bon vous n'avez pas encore, mais nous avions une liste de téléphones, de numéros de téléphone de tous les frères, n'est-ce pas, et vous regardez la liste. Et vous voyez, vous serez étonné de voir combien ont été contactés, combien ont été laissés tomber, combien sont restés. Vous voyez, donc tout ça pour dire que œuvrer à faire quelque chose pour le Seigneur n'est pas aussi facile. Ça ne se fait pas vite. Ériger quelque chose. Ah, ça c'est l'église. Oh, ça c'est un peu de fruit. Ce n'est pas la façon du Seigneur. La façon du Seigneur, c'est de se semer. De se semer dans la terre. Vous voulez du vrai fruit, quelque chose qui va pousser, qui va être solide, ça prend du temps. N'est-ce pas? Donc, le retour du peuple de Juda n'a pas eu lieu comme ça. Enfin, on y va! Voilà, c'est comme l'armée, n'est-ce pas? Comme le soldat, le commandant qui donne la commande. Soldat, n'est-ce pas? En avance! Et tout le monde, n'est-ce pas? On s'apprête et on avance. Non, ce n'est pas comme ça. C'est par quoi? C'est par la vie. C'est par la semence de la vie. Dieu œuvre dans une personne. Dieu œuvre dans une autre personne. Un par un. Un par un. La vie de l'Église, quand nous voyons, n'est-ce pas? 60 personnes, 70, 80. Dieu est en train d'œuvrer dans chacun. Ce n'est pas une réponse de masse. N'est-ce pas? Cette armée qui avance. Non. C'est l'homme qui répond à Dieu. C'est Dieu qui œuvre en nous. Et c'est ça qui fait la croissance, qui donne la croissance. Autrement, la croissance ne va pas durer. Il y aura du monde, on va venir, on va être attiré, Mais qui va rester? Ceux qui restent expérimentent quelque chose. Ceux qui restent touchent quelque chose. Sans cela, comment est-ce qu'ils vont toucher quelque chose? Il faut œuvrer. Il faut, n'est-ce pas, un Daniel. Il faut un Cyrus. Alors, Daniel a parlé de Daniel. Il est caché. Il est caché. Il est derrière les scènes. Il n'est même pas rentré à Jérusalem. Ah. Mais c'est lui. Et, enfin, Florent, hier, il a dit quelque chose de très intéressant à la maison. Que Daniel n'avait même pas besoin de retourner à Jérusalem. Parce que sa personne qui a préparé le peuple de Juda de retourner. Donc Daniel, il est resté. Il était âgé. Peut-être 90 ans, 85 ans. Mais son travail, son œuvre est précieuse. Vous voyez? Et c'est lui, parmi d'autres, Ézéchiel aussi, mais on ne parle pas de lui pendant ce temps. Ah, mais c'est lui qui a préparé. C'est lui qui s'est semé en Babylone, en captivité, pour vivre une vie libre, une vie devant Dieu, pas en captivité, pour que son peuple puisse rentrer de la captivité. Vous voyez, donc Daniel a, qu'est-ce qu'il a? Il s'est semé à servir tout ce que Dieu a placé dans sa vie. Pas de choix. Daniel n'avait pas le choix. Servir Nebuchadnezzar, pas de choix. Servir un roi comme ça, ça, c'est pas facile. Vous risquez d'être décapité, d'être tué à n'importe quel moment. Les rois étaient comme ça. Les rois babyloniens, les rois perses, ils étaient féroces. Vous lisez Esther, le livre d'Esther, vous allez voir, n'est-ce pas, le risque que Esther a pris, même de s'approcher du roi sans entretien, n'est-ce pas, sans rendez-vous. Ah, c'est... Donc, il était obligé, Daniel n'avait pas le choix, mais il s'est semé, il s'est préparé à être un vase, n'est-ce pas, pour accompagner Nebuchadnezzar, pour témoigner de sa vie, la vie de semence qui était en lui, de vivre une vie de témoignage, pour que Nebuchadnezzar puisse connaître le vrai Dieu. Belshazzar, Belshazzar, Daniel, sa mission, n'est-ce pas, ça, était de témoigner du jugement de Dieu à ce roi. Vous voyez, et même la manière dont Belshazzar a reçu l'interprétation de Daniel du rêve, très intéressant. Il ne s'est pas mis en colère, mais voilà, n'est-ce pas, Daniel qui lui a dit que tu vas mourir, ton royaume est fini, c'est fini, comptez, pesez, divisez. Toi, tes jours ont été comptés, Hein, tu n'as pas longtemps. Hein, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et ton royaume a été divisé. Et ça va être donné, n'est-ce pas, divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. C'est fini, toi. Ta vie, ton royaume, c'est fini. Et bien, ça, ça. N'est-ce pas, il a honoré Daniel, n'est-ce pas? Même il a fait Daniel quoi? Gouverneur, n'est-ce pas? Bon, je ne comprends pas, parce que s'il allait perdre son royaume, à quoi bon mettre Daniel gouverneur? Mais vous savez, Daniel, l'impact de Daniel, n'est-ce pas? Soit il témoignait de Dieu, soit il témoignait du jugement de Dieu, les gens étaient touchés. Voyez. Et même l'histoire a évolué. Parce que cette même nuit, les Chaldéens, n'est-ce pas, les Perses, sont arrivés, n'est-ce pas, et ont renversé, n'est-ce pas, ont remporté la victoire. Sur, même les Babyloniens, ils ne savaient même pas que les Perses venaient. Voilà. N'est-ce pas, et Darius, n'est-ce pas, a pris le pouvoir. Et puis avec Darius, comment Daniel a... Il s'est présenté. Ah, pour que Darius puisse, n'est-ce pas, le roi puisse dire, le roi que toi, le Dieu que toi tu sers, est-ce qu'il t'a préservé, n'est-ce pas? Et éventuellement, Darius a été, on peut dire, a été touché. Sa vie a été changée. Qui aurait pu changer, toucher la vie de ces rois? Personne d'autre. Qui oserait toucher Nebuchadnezzar? Qui oserait toucher Darius? Voyez. Donc, qui oserait toucher nos voisins au travail? Voilà, c'est Dieu qui a placé des bases qui ont besoin d'être préparées. Et puis, Cyrus, et ça c'est un peu ce matin, n'est-ce pas, Cyrus. Ah. Esdras, chapitre 1, verset 1, dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Donc, mais comment est-ce que l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus? Et là, quand Dieu réveille l'esprit de quelqu'un, comment est-ce qu'il le fait? Comment est-ce qu'il le fait? Oui, c'est Dieu qui le fait. Mais c'est toujours à travers un instrument. C'est toujours à travers quelqu'un. Vous voyez, Dieu œuvre toujours selon l'homme, avec l'homme, par l'homme. Dieu, même la personne qui dit que, oh, moi, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a touché. Même Paul, même Paul a été, n'est-ce pas, dramatiquement sauvé par le Seigneur, directement, n'est-ce pas? Mais même Paul, vous voyez, il a écouté Étienne, le témoignage d'Étienne. Vous voyez, donc même Paul, il est vrai qu'il a dit que je n'ai, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, il m'a séparé depuis le sein de ma mère, n'est-ce pas, et il m'a apparu, n'est-ce pas, etc. Mais les chrétiens que Paul liait, tous ceux qui invoquaient le nom du Seigneur, Étienne, n'est-ce pas, que Paul a écouté et que Paul éventuellement, n'est-ce pas, a gardé les vêtements de tous ceux qui ont lapidé Étienne. Ne pensez pas que ça n'a pas eu un effet sur Paul. Vous voyez, Dieu se sert des hommes, il se sert des vases pour réveiller l'esprit des hommes. Donc Cyrus, son esprit a été réveillé. Mais comment, Daniel? Ah, c'est un peu difficile à savoir, n'est-ce pas? Mais c'est la manière dont Daniel a accompagné Cyrus. Et c'est ça mon fardeau ce matin. Qui est Cyrus? Que représente Cyrus? Un roi païen? Quelqu'un de l'extérieur? Ok, c'est bon. Mais pour nous, qui est-ce? Si nous attendons un Cyrus de faire quelque chose, il faudra peut-être attendre longtemps. Si vous attendez un décret de la part de du président, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, ou de quelqu'un qui est, n'est-ce pas, qui a une certaine autorité, bon, ça c'est Cyrus, n'est-ce pas, ici. Mais spirituellement, qui est Cyrus? Pour moi, en lisant Esdras, Cyrus peut être un frère. Ah, un frère, mais un frère qui n'est pas encore prêt. C'est-à-dire que un frère qui est faible, un frère qui ne sait pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais un frère ou une sœur que le Seigneur peut utiliser. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous n'attendez pas, à qui vous n'attendez pas, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas, vous ne pensez pas que le Seigneur peut l'utiliser. Qui aurait pu croire que Dieu utiliserait Cyrus? Dieu est mystérieux. Cyrus, de toute personne, pourquoi Cyrus? Ah. Pourquoi pas Daniel? Pourquoi pas Ézéchiel? Pourquoi est-ce que Daniel n'a pas donné l'ordre? N'est-ce pas? Pourquoi pas un hébreu, un juif? Mais Dieu est très intéressant. Dieu veut se servir de celui qui est faible, de celui qui est même qu'on ne pense pas capable de répondre. Ça, c'est Dieu. Même Paul, souvenez-vous, n'est-ce pas, dans le corps, Dieu a placé les membres selon sa volonté, n'est-ce pas? Et il veut donner plus d'honneur à ceux qui n'en ont pas, n'est-ce pas? Ceux qui n'en ont pas. Vous voyez, pour que le corps puisse être quoi? Bâti, n'est-ce pas? Ceux qui ont de l'honneur n'en ont pas besoin, n'est-ce pas? Mais celui qui est faible est même plus nécessaire que celui qui est fort. Donc, Cyrus peut représenter quelqu'un qui vous ne croyez pas que c'est lui que le Seigneur va utiliser. Voyez, alors, ça veut dire n'importe qui. Dieu peut se servir de n'importe qui. Dans la vie de l'Église, il y a quelqu'un, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un, le frère ou la sœur que vous croyez faible, pas mûr, pas possible, n'est-ce pas? Incapable de prêcher l'Évangile, de servir d'une bonne manière. C'est peut-être ce frère-là ou cette sœur-là que le Seigneur va utiliser. Mais comment est-ce que le Seigneur va l'utiliser? C'est nous, c'est vous, c'est quelqu'un qui doit l'accompagner. Ouais, c'est quelqu'un qui doit se préparer à l'accompagner. Mais ce qui arrive souvent, c'est que, et je parle personnellement, nous voulons nous occuper, accompagner ceux qui sont forts. Parce que c'est plus facile. N'est-ce pas? Je voudrais lire la Bible avec quelqu'un qui veut lire la Bible. Alors je vais demander, n'est-ce pas, au père Roderick, est-ce qu'on peut lire la Bible? Ah, bien sûr. Quand? Ok, demain, n'est-ce pas? Le soir, on va le lire pour, pendant une heure. N'est-ce pas? Ça, c'est du succès. C'est facile. Mais le frère qui ne veut pas lire la Bible, le frère qui ne s'intéresse pas, qui veut être avec lui? Bon, c'est pas... c'est beaucoup plus difficile. Hein? Beaucoup plus difficile. Parce que notre nature ne veut pas. Hein? Nous voulons nous attacher au fort. Nous voulons nous attacher à ceux qui s'intéressent. Mais Daniel s'attachait à un Cyrus. Hein? Non, ça va contre notre nature. Alors, donc, ce matin, hein, en voyant, donc, je vois, n'est-ce pas, l'église à Abidjan, vous avancez. Vous croissez hier, il y avait au moins 60. Même plus, il faut compter les enfants. Alors, quand on compte, il faut compter les enfants. Parce que, oui, donc presque 80, 75, n'est-ce pas? Combien d'enfants avez-vous? 15, il y a beaucoup, oui, oui. Donc, hein? Il y a un besoin, n'est-ce pas? Il y a un besoin de s'occuper, d'accompagner les frères et les sœurs. C'est-à-dire que quand vous étiez moins nombreux, n'est-ce pas? Bon, vous pouviez, parce que vous étiez ensemble, enfin vous êtes toujours ensemble, n'est-ce pas? Et donc, la force d'être ensemble pouvait vous emporter, n'est-ce pas? Si vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de la morale, n'est-ce pas? L'impact. Quand vous êtes ensemble, on vient, on est attiré. Ah. Mais vous pouvez comme les vagues, n'est-ce pas? Vous pouvez flotter sur cette vague jusqu'à un certain point. Mais après ça, ceux qui viendront, n'est-ce pas, ils pourront se perdre ou ils pourront être, pourront venir et être et tomber, n'est-ce pas, dans les crevasses, parce qu'il n'y a peut-être pas un frère ou une sœur qui se dirige vers lui, vers eux, n'est-ce pas, pour vraiment l'accompagner. Non, ça c'est juste mon observation et basée sur mon expérience à Montréal, où nous avons commencé avec 20, une vingtaine, comme vous. Ben vous, oui, même moi, oui, une vingtaine. Et on est venu. Je ne sais pas comment, mais des amis, des camarades, n'est-ce pas, on est venu et on était ensemble. Mais maintenant, nous sommes à peu près 150. 150. Nous avons atteint 200. Nous avons touché 200 à certains moments. Mais 150, 160 dimanche matin, y compris les enfants. C'est pas facile. Parce que on vient, on est attiré, ah, c'est quelque chose. Mais on n'est pas tellement prêts, les frères et les sœurs, à s'attacher aux nouveaux pour les accompagner, pour les guider, les diriger. Et on préfère compter sur les réunions, la morale, la n'est-ce pas, la puissance de l'esprit, le déplacement de l'esprit pour les garder. Mais le déplacement de l'esprit peut les attirer, peut attirer quelqu'un. Mais que cette personne reste, demeure, ce n'est pas ça, simplement. C'est le soin, c'est le fardeau d'un frère ou d'une sœur de l'accompagner. N'est-ce pas? Donc, même à Montréal, chaque année, ça c'est avant, chaque année, il y avait au moins 50, 60 personnes qui ont été baptisées chaque année. Mais après quelques années, on a regardé la liste. J'ai parlé des listes, n'est-ce pas, de tous les baptêmes, les frères et ceux qui avaient été baptisés. Où sont-ils? On est, n'est-ce pas, parmi peut-être 100, 150, peut-être 5 ou 10, 5 ou 6 sont restés. Beaucoup de baptêmes. Et voilà. Non mais c'est, et moi on s'est gratté la tête pour Seigneur, pourquoi est-ce que si peu sont restés? Et puis on a eu un peu, même que peut-être que nous étions trop pressés de baptiser les gens aussi. Mais ce que le Seigneur nous a touché, c'est que même avant qu'on soit baptisé, un frère ou une sœur soit baptisé, est-ce qu'il y a un autre frère ou une sœur qui est avec lui? C'est-à-dire qu'il prend soin de lui. Et puis, cette personne est baptisée. Il y a un lien. un rapport entre celui qui est nouvellement baptisé et un frère, une sœur. Et donc, au moins on sait un peu qui s'occupe de qui. Qui s'occupe de lui? Ben, tout le monde s'occupe de lui. Ça veut dire que... N'est-ce pas? Et il faut que plusieurs s'occupent de lui. N'est-ce pas? Donc, on a parlé de ça. Si moi, je m'occupe d'un nouveau, ce n'est pas mon territoire. Ce nouveau n'est pas mon territoire. Non, je dois être ouvert à encourager d'autres frères et sœurs à l'inviter, n'est-ce pas, chez eux, etc. Mais, quand même, il doit y avoir un ou deux frères qui savent qui s'occupe de qui. Autrement, ça va être difficile, n'est-ce pas? Donc, ça c'est un peu mon fardeau. Je lutte parce que je sais, je connais ma nature. Hein, je préfère donner des messages dans la réunion. Voilà, vous ne savez pas. Là, bon, c'est comme du vin. Ça monte dans la tête. Enfin, surtout les frères, nous comptons trop sur les messages. Un message va changer la vie de quelqu'un. Oui, un message peut changer la vie de quelqu'un, peut tourner la vie de quelqu'un. Mais après le message, qu'est-ce qui va se passer? Voyez, Paul, il a touché, il a eu un message merveilleux du Seigneur lui-même. N'est-ce pas? Paul, pourquoi me persécutes-tu? C'était le message. Le Seigneur lui a donné un message bouleversant. L'a frappé par terre. Selon la tradition, n'est-ce pas? Voilà. Bon, mais après le message, il fallait un Ananias de venir chez lui. N'est-ce pas? Pour s'occuper de lui. Ah, il fallait les disciples à Damas. Il fallait des frères. Ah, il fallait des frères. Il fallait un Barnabas pour aller le chercher. Et c'est pareil avec nous. Les messages, n'est-ce pas, la dispensation de la parole, c'est oui, c'est essentiel. Mais nous ne pouvons pas compter sur ça uniquement. Ça ne va pas. Donc, nous nous trompons. C'est derrière les scènes. Est-ce qu'il y a des Daniel cachés, n'est-ce pas? Daniel cachés qui savent accompagner des frères et des sœurs. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que être avec quelqu'un dans la vie quotidienne est beaucoup plus difficile que donner un message le dimanche matin. Parce que dimanche matin, on doit vous écouter. Même si on ne veut pas, on est obligé, n'est-ce pas, d'être là. Voilà, c'est... N'est-ce pas? Et donc, on peut se tromper. Ah, tout le monde, n'est-ce pas, j'ai... Oui, oui, et je ne minimise pas, il y a un lieu, n'est-ce pas, de donner les messages. Mais moi, je dis que si je donne un message, je dois... la base de ce message, c'est les gens. qui est-ce que j'accompagne pendant la semaine. Donc, je me rappelle Fred Titus, vous le connaissez, c'est pas, il y a, pendant une formation, on a fait beaucoup de grandes lignes. Comme moi, j'ai préparé, n'est-ce pas, 14 messages. On a fait beaucoup de grandes lignes. On a fait beaucoup de préparation de la Bible. Et on a donné beaucoup de présentations pour être formé. On a donné beaucoup de messages. Et après un message, il a demandé à un frère, « Ok, frère, de combien de frères est-ce que vous vous occupez pendant la semaine ?» N'est-ce pas ? j'ai pas eu le temps de... Parce que j'ai préparé les grandes lignes. Bon. Donc, ah oui, ça c'est pas facile. Même avant de venir ici, en Côte d'Ivoire, au Ghana, je préparais ça. Mais, parce que le Seigneur m'a placé avec un autre frère à Chicago, plus jeune. Nous sommes ensemble. Nous lisons la Bible ensemble, trois fois par jour, par semaine. Parce que lui aussi, il apprend à servir. Donc, trois fois par semaine, trois heures chaque fois. Donc, 9 heures. Parfois, j'étais tenté de dire à ce frère, excuse-moi, je ne peux pas, parce que je dois voyager, je dois préparer quand même, n'est-ce pas, des grandes lignes. Hein? Et si j'avais dit ça, si je lui avais dit ça, je suis sûr qu'il aurait compris, parce qu'on se connaît très bien. Mais chaque fois que j'étais tenté de faire ça, de dire ça, il y avait, le Seigneur m'a empêché. Non, toi, tu as une dette à ce frère. Sa croissance dépend de comment tu es avec lui. Alors, pour écrire ces grandes lignes, toi, tu dois passer des nuits, je sais pas. C'est-à-dire, tu dois accomplir, t'occuper de ce frère et t'occuper de ça. Ne pas négliger ni l'un ni l'autre, mais presque comme un double. Mais le point, c'est que quand il s'agit de s'occuper des frères et sœurs, on a tendance à laisser tomber. On préfère les choses qui viennent plus facilement. Si ça c'est le cas, mais je sais qu'avec les frères, et surtout les frères ici, y compris moi, je suis comme ça, je préfère passer la journée chez moi, dans ma chambre, en lisant la Bible. Parce que ça me vient facilement, ça, n'est-ce pas? Et je dois craindre ça aussi. Parce que ce qui vient facilement, nous ne grandirons pas autant. C'est ce qui ne vient pas facilement, c'est à ce moment-là que nous chercherons plus le Seigneur. C'est à ce moment-là que nous irons au-delà de nous-mêmes, même contre nous-mêmes. Voyez. Donc, n'est-ce pas? On veut parler, on veut donner des messages dans les réunions, c'est bon. Mais la question c'est, ok, combien de frères est-ce que j'ai téléphoné? À combien de frères est-ce que j'ai téléphoné? Combien de frères est-ce que je prie? Avec combien de frères est-ce que je prie? avec combien de frères, même un frère, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur avec qui j'essaye de lire la Bible? Ah, ils n'ont pas le temps. Ils sont trop occupés. Oui, ça c'est pour que nous grandissions. Ah. À Montréal, peut-être que je vous ai déjà parlé de la situation à Montréal, au Québec. Il y a ce qu'on appelle des dépanneurs. Est-ce que je vous ai des dépanneurs? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un dépanneur? Hein? C'est ce que j'ai pensé. Quand moi, je suis allé à Montréal, la première fois, j'ai vu la pancarte, n'est-ce pas, sur un magasin dépanneur. Et je pensais tout de suite à ça, n'est-ce pas, la voiture. Mais non, je n'ai pas vu de garage. C'est un magasin. C'est un magasin qui est ouvert très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. C'est comme un 7-Eleven aux États-Unis. Là où tu peux aller n'importe quand, n'est-ce pas, pour acheter du pain, du lait, quoi que ce soit. Quand les autres magasins sont fermés. Voilà, ça c'est un dépanneur. Alors ma femme, la première fois, quand on est allé à Montréal ensemble, elle m'a demandé, mais c'est quoi un dépanneur? Et moi, je ne savais pas. Une dépanneuse, oui. Et donc, et toi, tu connais, tu es supposé, n'est-ce pas, savoir connaître le français. Mais j'ai trouvé, n'est-ce pas, j'ai appris que c'est un magasin. Oh, voilà, dépanneur. Donc, si jamais vous allez à Montréal, au Québec, vous verrez beaucoup de dépanneurs. Bon. Et les dépanneurs, il y a beaucoup de... Dans l'église, il y a au moins 20, même plus de 20 frères et sœurs qui s'occupent des dépanneurs. Pas des dépanneurs. Parce que beaucoup de gens qui viennent, n'est-ce pas, de Chine, au Canada, pour immigrer au Québec, pour immigrer, ils ne sont pas forcément, ils ne sont pas, ils sont qualifiés, mais pas avec le diplôme qu'il faut pour, n'est-ce pas, travailler. Ils étaient, par exemple, médecins, infirmiers, même ingénieurs dans leur pays, mais en venant au Canada, il faut repasser, il faut être diplômé selon la, n'est-ce pas, avec la, mais plus ou moins être éduqué, encore une fois, n'est-ce pas, et c'est trop. Ils ont déjà peut-être 25, 30 ans avec des enfants. Est-ce qu'ils vont aller, n'est-ce pas, passer 4 ans encore à, n'est-ce pas, obtenir un diplôme? Donc, c'est pas facile. Mais ils viennent au Québec parce que c'est facile d'immigrer au Québec. Il faut apprendre le français, c'est ça là. Il faut réussir à un examen de français. Et si tu réussis à cet examen de français, ça y est, tu obtiens ton ta résidence permanente, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ok, donc je vais. Donc, si j'avais. Donc, le Seigneur vous dirige. Non, je vais dire. Non, peut-être que je ne devrais pas le dire. Non, parce que. Si jamais le Seigneur. N'est-ce pas, vous... Sachez que. Au Canada, au Québec. Non, voilà, c'est. Il faut passer, réussir à l'examen de français. Qui ne
serait pas du tout difficile. Ok, ceci dit, bon, je continue. Donc, beaucoup de ses frères, ils s'occupent des dépannements, mais ils sont occupés. Ils doivent ouvrir le magasin à. Doit être là à 6 heures du matin et il quitte à 11 heures du soir. Et c'est. Oui, et c'est 7 jours par semaine. Oui, oui. Ouvert. Même, même les fêtes, même les congés. Oui, oui. Sauf au cas où certains. Bon, ils mettent une pancarte sur la porte fermée pour. Le nouvel an, le jour du nouvel an ou Noël, mais normalement, ce sont ces jours-là que vous gagnez le plus, c'est ça, oui, parce que les autres magasins sont fermés, donc tout le monde veut, ils veulent s'amuser, ils veulent fêter, donc voilà, ils ont besoin de dépanneurs. Comment est-ce que, ok, ces gens-là, franchement, notre manière de penser avant, on peut les éliminer de la vie de l'Église. Ben, c'est pas, comment est-ce qu'ils vont. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Pour qu'ils viennent même le dimanche matin, il faut trouver quelqu'un pour veiller. Il faut le payer. Donc il y a certains, n'est-ce pas, qui font ça. Mais pas beaucoup. Parce qu'il faut payer quelqu'un. Et il faut le former, n'est-ce pas? Et souvent, même ces dépanneurs sont un peu loin de Montréal, de la salle de réunion. Parce que plus vous vous éloignez de Montréal, moins cher, c'est moins cher. Et il y a moins de compétition avec d'autres dépanneurs. À Montréal, il y en a beaucoup. Donc, si vous avez un dépanneur, n'est-ce pas, en centre-ville, par exemple, vous aurez beaucoup de compétition. Mais si vous avez un dépanneur dans un banlieue, peut-être que vous êtes le seul dépanneur dans ce quartier. Donc, vous pouvez gagner la vie, n'est-ce pas, et vous pouvez faire assez bien. Oui. Donc, ils peuvent gagner à peu près 50, même 60 $1,000 par an, n'est-ce pas? Net. Le profit net, n'est-ce pas? Bon. Mais, en ce qui concerne la vie de l'Église, là, c'est, n'est-ce pas? Alors, même, on leur disait avant, non, enfin, avant de réfléchissez avant de, n'est-ce pas, d'acheter un dépanneur. Voilà. Et mais plus récemment, le Seigneur nous a donné un fardeau, nous a changé un peu notre façon de voir les choses. Et de trouver un moyen d'être avec eux. Mais comment est-ce que vous allez être avec quelqu'un? Donc il y a un frère, celui avec qui que j'ai accompagné pendant longtemps, quand j'étais à Montréal. Il va, pendant la journée, il va visiter les dépanneurs. Et moi, je l'ai accompagné. Il a 10 ans de plus âgé que moi. Oui. Mais il est plein d'énergie. Et il va, n'est-ce pas, à plusieurs dépanneurs pour passer peut-être 5 minutes avec eux, avoir un peu de communion et prier avec eux. Et même ça, c'est pas facile, parce qu'il y a des clients qui entrent et qui sortent. Alors quand il y a des clients, on ne peut pas prier, il faut attendre, n'est-ce pas? Donc, Et vous, lui il est très, très hardi. Là. Moi, quand je suis là, j'ai toujours... N'est-ce pas, quand est-ce qu'il y a un client qui va entrer? mais aucune honte, n'est-ce pas, il va et il ne les oblige pas de venir à la réunion. Juste être avec eux. Et ensuite, d'établir, d'avoir, de passer, peut-être de lire la Bible avec eux. Mais comment? Après que le dépanneur se ferme. Oui, à 10h ou à 11h. Mais à 10h, mais à 10h normalement, parfois 11h, il ferme, n'est-ce pas? Il barre les portes du dépanneur. À ce moment-là, sur Skype, sur l'Internet, là, il faut l'Internet, n'est-ce pas? Sur l'Internet, il appelle. Il y a plusieurs dépanneurs, n'est-ce pas, partout, qui se rassemblent sur l'Internet pour lire un peu. Il n'y a plus de clients, n'est-ce pas? Même pendant 15 minutes, 20 minutes, avoir un peu de temps. Je vous dis que c'est à travers ça que plusieurs, certains commencent à venir, commencent à être liés avec les autres frères et sœurs. Alors, ils font un effort de venir. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux. Et ils connaissent aussi d'autres frères. Parce que c'est pas seulement ce frère, mais c'est d'autres frères aussi qui participent à cette lecture. Donc ils commencent à... ces frères qui s'occupent des panneurs, ils commencent à connaître. Ils commencent à avoir l'impression que ils font partie de la vie de l'Église, même s'ils ne peuvent pas venir à la réunion chaque semaine. Et c'est pour cette raison-là que certains commencent à venir. Ils vont embaucher quelqu'un dimanche matin, ou bien le mari, parce que le mari reste, la femme vient, et puis la semaine suivante, la femme reste et le mari vient. Comme ça, n'est-ce pas? Donc, il peut faire comme ça. Ou bien l'enfant, les enfants, n'est-ce pas? Eux, ils restent. Bon, l'enfant reste pour s'occuper du dépanneur. Comme ça, les parents peuvent venir. Vous voyez? Donc, ça m'a beaucoup impressionné. Et je me suis rendu compte. Moi, je n'ai pas ce cœur. Seigneur, donne-moi ce cœur. Hein? Moi, j'élimine trop facilement tel ou tel frère, telle ou telle sœur. Pas parce que je ne les aime pas. Non, parce que pour moi, c'est pratiquement impossible. Frère, changez votre profession. Mais c'est... En tout cas, c'est... Oui. Voilà, vous voyez, je suis... Ça, c'est... Alors, je suis en captivité. Si je... Et voilà. Notre tendance, n'est-ce pas? Nous avons tendance à juger, à former des jugements trop facilement. Tel ou tel frère, il devrait faire ça, il devrait faire ça. Il n'a pas fait ça, donc il ne vient plus. Au lieu de nous-mêmes nous efforcer, nous payer le prix d'être avec eux, hein, de les accompagner, Daniel, Et voilà pourquoi j'ai été impressionné par Daniel. Parce qu'il a accompagné ce roi Cyrus. Et quel était le résultat? L'esprit de Cyrus a été réveillé par Dieu, oui. Mais comment est-ce que l'esprit de Cyrus a été réveillé? Ah. Ça veut dire que Cyrus a touché quelque chose. Ce n'est pas seulement que Cyrus était l'instrument, n'est-ce pas, de Dieu. Ce n'est pas seulement que... Ce n'est pas une décision politique. Ce que Cyrus a fait n'était pas une décision politique. Oui, les rois peuvent faire beaucoup de décisions, beaucoup de choses politiquement, n'est-ce pas? Ah, il a... N'est-ce pas? Je vais permettre aux Juifs de retourner à Jérusalem pour bâtir leur maison, la maison de leur Dieu, pour les garder. Voilà, n'est-ce pas? Un bon roi, un bon politicien, n'est-ce pas? Il sait très bien comment, n'est-ce pas, arranger les choses. Rendre quelqu'un content. Comme ça, vous n'aurez pas de rébellion. Et il y avait beaucoup de rois comme ça. Et même Cyrus, on aurait pu dire ça de lui. Sauf ce verset-là, qui dit que Dieu lui-même, Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Ça veut dire que ce n'était pas politique. Vous voyez, c'était quelque chose de Dieu. Que Dieu, pas seulement que Dieu a manipulé Cyrus comme un mannequin, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, faire le décret. Plus que ça, il a réveillé l'esprit même de Cyrus. Ça veut dire que Cyrus a été, oh, même, on peut dire, régénéré. Oui, quand l'esprit est réveillé, ça veut dire que c'est ça, c'est la régénération, n'est-ce pas? La nouvelle vie dans notre esprit. Et puis, vous mettez les versets, n'est-ce pas, Cyrus, mon berger. Cyrus, mon roi. Dans le chapitre 45, nous avons lu le verset. Cyrus, mon roi. Vous voyez, c'est comme si Dieu, l'affection de Dieu envers Cyrus. Vraiment quelque chose. Mais comment était-ce possible? Oui. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main. Qu'il tient par la main. Oui. Mais qui l'a tenu par la main? L'Éternel l'a tenu par la main, mais à travers Daniel. N'est-ce pas? Donc, le Seigneur veut tenir par la main beaucoup de frères. Mais c'est par d'autres frères, d'autres sœurs, n'est-ce pas, qui sont prêts à... payer le prix de les accompagner, de marcher avec eux, n'est-ce pas, même de vivre avec eux, de passer par des expérimenter des choses avec eux. La vie de servir, de service dans la vie de l'Église est une vie de semence. Nous avons parlé de ça. C'est une vie qui demande qu'on se renie. Qu'on renie, n'est-ce pas, ce qu'on ne veut pas faire ou de renier ce qu'on veut faire. Alors, les anciens, n'est-ce pas, les responsables, bon, mais nous tous, être disponibles, notre temps, notre cœur, notre maison, d'être disponible, d'être ouvert à ce que le Seigneur placerait, n'est-ce pas, dans notre vie. Ah, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, je préfère voir les saints dans la réunion. Et puis, n'est-ce pas? Dire quelque chose et puis les revoir au, n'est-ce pas, prochain rassemblement. Ah, mais non, mais on s'aime, on est dans la vie de l'Église ensemble, on s'aime, on est. Oui, mais est-ce qu'on veut vraiment être ensemble? Parce que quand on est ensemble, on se suit les mains. C'est-à-dire qu'on perd quelque chose. On perd, n'est-ce pas, sa vie d'âme. Donc, j'étais au Togo avant de venir ici à Abidjan. J'ai passé 10 jours au Togo. Et là, le matin, presque chaque matin, sauf le lundi, bon, lundi matin, on est sorti rendre visite aux frères et aux sœurs. Et j'ai vu un peu comment les frères là, comment certains se donnent, n'est-ce pas? Comment ils. C'est-à-dire que être avec les saints, pas seulement dans les réunions, mais dans leur vie quotidienne, c'est ça qui les garde. C'est ça qui les fortifie. C'est ça qui. Donc, il y a un frère que moi j'ai visité en 2014 au Togo. Il avait perdu sa jambe à cause d'une inflammation. N'est-ce pas? Il a été piqué par un insecte et la jambe s'est gonflée et s'est infectée. Et. On a dû la couper en 2014. Et moi, je lui avais rendu visite là, chez lui, être avec lui, avec d'autres frères. Et c'était difficile parce que qu'est-ce que vous dites, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous pouvez être avec quelqu'un? Bah, comment est-ce que vous pouvez le consoler cette fois-ci? Quand je suis allé au Togo, il était là. Il est venu à la réunion en motocyclette. Oui, parce qu'il a maintenant une jambe artificielle. Oui, prosthèse, ça, prosthèse. Oui, oui. Mais il est en motocyclette. Incroyable. Je lui ai dit, après, il faut faire attention. Comment est-ce que. Mais non, ça va, c'est. Waouh! Ça, c'est vraiment. Et je vois comment les frères là se sont occupés de lui. N'est-ce pas? C'est pour. Parce qu'il était même dans la dépression à l'époque. N'est-ce pas? Comment? N'est-ce pas? Et maintenant. Il peut se déplacer en moto, n'est-ce pas? Et il vient à la réunion, il est content, n'est-ce pas? Il n'est pas amer, il n'est pas, n'est-ce pas? Il n'est pas, se reproche pas, n'est-ce pas? Il ne reproche pas au Seigneur. Et moi, je n'ai pas dit grand-chose, parce que à l'époque. Mais à travers le soin des frères, il a pris ça, n'est-ce pas, de la main du Seigneur. Moi, je ne lui ai dit pas de faire ça, n'est-ce pas, frère. Ça c'est la, n'est-ce pas, c'est ce que le Seigneur a. Non, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai les deux jambes, n'est-ce pas? Alors, je ne savais pas quoi dire, mais il a appris, n'est-ce pas? Il a appris à connaître le Seigneur, n'est-ce pas? Il a appris à connaître le Seigneur, à connaître la main du Seigneur et l'amour des frères et des sœurs. Et donc, il vient, n'est-ce pas, avec sa femme, ses enfants. Donc, je vois que rien ne peut remplacer le soin individuel, le soin, le 1 sur 1, n'est-ce pas? Rien ne peut remplacer ça. Oui, il faut les réunions, il faut la dispensation de la parole, il faut la vision, n'est-ce pas? Mais tout ça doit être renforcé. La base, c'est le soin individuel. Daniel, hein, la parole, ok, Daniel, il a. Je suis sûr que Daniel a passé du temps avec Cyrus. Et donc, quand Daniel lisait Jérémie, le Seigneur lui a parlé. N'est-ce pas? La prophétie de Jérémie est devenue vivante. Ce n'était pas seulement une prophétie, mais elle est devenue quelque chose de qui a parlé à Daniel, qui a touché Daniel. Hier, nous avons touché ça. Daniel s'est repenti après avoir lu, n'est-ce pas, la prophétie de Jérémie. Mais en même temps, cette parole qu'il a lue et qu'il a touchée, il a pu transmettre à Cyrus. Vous voyez? Donc, la parole, et ça c'est peut-être le deuxième fardeau ce matin, mais c'est relié au premier. Pour s'occuper, n'est-ce pas, des autres, pour soigner les autres, il faut que la parole nous parle. Il faut que, pas seulement que nous connaissions la parole, mais que le Seigneur puisse nous parler dans la parole. Vous voyez, il y a une différence entre connaître la parole et même expliquer la parole et le Seigneur qui nous parle, oui, qui nous expose, qui touche quelque chose en nous. Et c'est ça qui touche les autres. Alors, même quand nous lisons la parole avec quelqu'un, souvent, on va nous demander d'expliquer. Je ne comprends pas ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et autrefois, j'expliquais, n'est-ce pas? Mais maintenant, je me méfie. Oui, parfois il faut expliquer pour situer le contexte. Mais on peut risquer d'expliquer la Bible sans que le Seigneur nous parle. Vous voyez? Donc, souvent je dis aux gens, lisez la Bible. Si vous ne la comprenez pas, ça va. Parce que vous n'allez pas tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Même moi, quand j'ai lu la Bible, je ne la comprends pas toujours. Mais l'essentiel, c'est que le Seigneur nous parle. Si le Seigneur vous a parlé, ça suffit. Ça, c'est la réel. Combien de faits, combien de connaissances vous retenez, ça, ce n'est pas aussi important. Il y aura lieu pour ça. Et oui, dans les formations, dans l'avancement, n'est-ce pas, il y a ça. Je ne nie pas. Mais pour des nouveaux, pour quelqu'un qui commence à lire la Bible, qui, n'est-ce pas, qui commence à connaître le Seigneur, essayez de lire la Bible avec eux pour que le Seigneur puisse leur parler. Mais ça veut dire que le Seigneur doit d'abord me parler. N'est-ce pas? Autrement, il ne peut pas parler aux autres s'il ne me parle pas. Donc, c'est toujours un exercice. Comment même après une conférence, on revient d'une conférence et on veut témoigner. On veut, n'est-ce pas? La tendance, c'est facile, et voilà, de refaire la conférence. Bon, parce que on pense que si on ne fait pas ça, les gens ne vont pas comprendre. Mais je vous dis ça, ce qui vous a touché dans la conférence va parler plus que tout ce que vous avez accumulé. Toutes les connaissances, tous les faits, n'est-ce pas? Ce que les gens, et moi je parle comme auditeur, n'est-ce pas? Moi quand j'écoute un témoignage, ce que je retiens, c'est ce qui a touché la personne. C'est pas les connaissances. Ce que la personne a touché, ce que le Seigneur lui a dit et sa réponse. Ce qu'il a résolu de faire. Comment il a résolu de répondre au Seigneur. Ah. Ça, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace. N'est-ce pas? Alors, si vous écoutez, n'est-ce pas, un message sur la lecture de la parole. Et si quelqu'un, n'est-ce pas, va témoigner, ah oui, il faut lire la parole, tous les avantages de lire la parole, n'est-ce pas, toutes les bénédictions, qu'est-ce qui se passe si nous ne lisons pas la parole? Mais quand quelqu'un se lève et dit, le Seigneur m'a touché, combien peu j'ai lu la parole? Et que, en priant le Seigneur aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai besoin de dévouer 15 minutes par jour de lire la parole. Ça, c'est. Il y a une réponse. Il y a une action. Ça, c'est réel. Sa vie a changé un peu. N'est-ce pas? Ça, c'est là. Voilà. Donc, Daniel avec Cyrus. N'est-ce pas? Est-ce que ça s'est passé? Ah, n'est-ce pas? Peut-être Daniel a été touché. Et la prophétie de Jérémie, la prophétie en Ésaïe est devenue vivante. N'est-ce pas? Pas seulement une prophétie morte à prophétiser il y a 200 ans, mais elle est devenue vivante. Et elle a commencé à opérer en Cyrus pour que son esprit soit réveillé. Et qu'il prononce ce décret. voyez, ça c'est la réponse. Ah, ça c'est un frère qui, quoi, qui ranime la vie de l'Église. Toute la vie de l'Église est ranimée par un nouveau frère, n'est-ce pas? Frère, je veux prêcher l'Évangile. Ah, je veux parler avec mes amis, mes camarades du Seigneur. Je suis, quand un jeune frère dit ça, je suis sûr, tout le monde sera ranimé. Tout le monde aura le feu de prêcher l'Évangile. N'est-ce pas? Mais quand ceux qui sont plus âgés, nous, moi, n'est-ce pas, j'encourage les gens à prêcher l'Évangile. Oui, je peux le faire, mais parfois, ceux qui savent plus, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences, souvent, ils ont moins d'impact qu'un jeune ou qu'un nouveau qui est ranimé, qui a un désir ardent, n'est-ce pas, de changer son école. Oui, il n'y a pas de jeunes, enfin, d'écoliers ce matin, ils sont tous à l'école. Voilà, mais ça c'est ça qui ranime, n'est-ce pas, l'Église. Et donc que Cyrus ait pu donner un décret comme ça, le peuple de Juda a répondu à son appel. Voyez. Donc où est le Cyrus, n'est-ce pas, ici, ou à Abidjan? Il y a des Cyrus, je suis sûr, n'est-ce pas? Il faut les trouver, il faut les... Mais il y en a. Et il ne s'agit pas de dire à quelqu'un: ah, tu es Cyrus, je vais passer du temps avec toi, je vais t'accompagner. Non. Donc il faut de la sagesse. Parce que on va vous dire: non, j'ai pas besoin. Moi, je peux lire la Bible seul. Et moi, je vais bien. Je viens à la réunion. Oui, donc, il faut apprendre, n'est-ce pas, de la sagesse. Comment? C'est pas que vous allez enseigner cette personne. Non. Vous allez accompagner. Frère, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut lire ensemble quelque chose? Non, je ne vais pas t'enseigner. Non. Au contraire, peut-être toi, tu vas m'enseigner. Je vais apprendre de toi. Ah. Mais j'ai besoin d'un autre frère. Vous voyez, pratiquement, hein, la préparation de Daniel. Et Daniel, n'est-ce pas, le prix qu'il a payé d'accompagner Cyrus et les autres rois précédents, mais finalement Cyrus, et le rôle qu'il a joué. Mais après ça, Daniel disparaît, n'est-ce pas? On n'entend plus parler de lui, n'est-ce pas, après Daniel, le livre de Daniel, n'est-ce pas, sauf dans Hébreux chapitre 11, il est mentionné, enfin, même pas par nom, n'est-ce pas, mais par son ce qu'il a fait, n'est-ce pas, ou ce que Dieu, n'est-ce pas, Dieu a par la foi fermé la bouche des, oui. Mais c'est à cause de sa personne, sa préparation et le fait qu'il était prêt à être avec les rois, que le peuple de Juda a pu retourner. Amen. Donc est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix, vraiment à nous exercer de cette façon? Amen. Il y a les deux. C'est-à-dire que, d'une part, nous devons nous exercer. D'autre part, c'est Dieu aussi qui nous place, n'est-ce pas, avec certains. Donc, oui, c'est pas tout le monde. C'est-à-dire que, mais je pense que le Seigneur vous donnera le sentiment, n'est-ce pas? Vous aurez le sentiment, vous saurez. Et il faut essayer. Il faut essayer. Et c'est ça là, souvent, surtout le dimanche matin, n'est-ce pas? Dimanche, si on veut savoir où commencer, ou comment commencer, dimanche, c'est bien. S'il y a un nouveau ou des nouveaux qui viennent, hein, soit ils viennent à cause de quelqu'un, n'est-ce pas? Ils sont invités. Dans ce cas-là, celui ou ceux qui l'ont invité, n'est-ce pas, ils le connaissent. Et si on vient, n'est-ce pas, comme ça, par hasard, bon, mais c'est pas par hasard, mais par exemple, quelqu'un vient, oui, invité, mais peut-être qu'on ne le connaît pas très bien, n'est-ce pas? C'est un voisin, c'est un camarade, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui habite dans le quartier. On l'a invité. C'est très bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a certains qui peuvent aller lui parler auprès de lui? Et c'est ça, c'est assez facile. Ça semble, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on devrait faire, n'est-ce pas? Mais souvent, nous préférons nous parler, n'est-ce pas, nous-mêmes. Mais s'il y a certains frères ou certaines sœurs qui peuvent trouver, n'est-ce pas, trouver ceux qui sont nouveaux ou ceux qui ne sont pas encore avec, qui sont là, qui viennent, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore le sentiment qu'ils font partie de la vie de l'Église. Ah. Ça, c'est bien de les contacter. Autrement, ils vont partir. Parce que quand on pense qu'on ne connaît personne, ou que personne ne me connaît, on va trouver ailleurs. On va chercher ailleurs. Et ça, c'est arrivé. Là, n'est-ce pas, où j'étais, un frère qui venait, n'est-ce pas, il est venu 4 ou 5 fois à la réunion. Mais personne ne lui a parlé. Finalement, une sœur a dit à son mari de lui parler. Et il lui a parlé et il a trouvé qu'il était catholique. pas chrétien, il n'avait pas encore cru au Seigneur, et il a été sauvé. Mais il est venu 4 ou 5 fois, 4 ou 5 semaines, sans que personne ne lui parle. Bon, mais ça c'était bien sûr dans une assemblée de plus de 150 personnes. Donc c'est plus possible, n'est-ce pas? Ici, donc vous êtes encore, vous n'êtes pas aussi nombreux. Donc, mais même ceux qui viennent, mais il faut, la vie de l'Église, c'est une communauté. Et oui, c'est spirituel, mais c'est aussi social. C'est-à-dire qu'on cherche des amis, n'est-ce pas? On veut être aimé, on veut être reconnu, on veut faire partie, voyez, de la communauté. Et si on ne fait pas partie de la communauté, on risque d'aller ailleurs. Donc c'est bien même juste se présenter, de prendre le numéro de téléphone, l'adresse, comme ça au moins vous savez, n'est-ce pas, où la personne habite, et de l'appeler pendant la semaine, d'établir un contact. C'est ce que dans beaucoup de groupes chrétiens, dès que vous entrez, il y a un morceau de papier là qu'on vous donne. Bah, pour écrire votre nom, votre adresse, votre téléphone, numéro de téléphone, votre courriel et même des remarques. Ah non, ça c'est trop organisé, disons. Ça ce n'est pas l'esprit. Non, voilà, ça, on a répondu comme ça. Ça ce n'est pas l'esprit. L'esprit c'est. N'est-ce pas? On pense que l'esprit, être poussé par l'esprit, être dirigé par l'esprit, c'est quand je veux, n'est-ce pas? Quand je sens le Seigneur me dirige, n'est-ce pas? Je le ferai. Oui, non. C'est en me dirigeant vers le frère que le Seigneur va me diriger, n'est-ce pas? Donc, à Montréal, il y a une sœur plus âgée. Elle a toujours son carnet et son stylo. Mais c'est son ministère. Elle est évangéliste. Partout où elle va, elle prêche. Donc, à chaque réunion, elle a son carnet et son stylo en train de contacter les nouveaux. Comment vous appelez-vous? Quel est votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone? N'est-ce pas? Est-ce que c'est organisé? Ben, c'est... n'est-ce pas? C'est vraiment... Et je pense qu'elle a, elle aussi, elle fait des commentaires. N'est-ce pas? Alors, quand elle s'occupe de quelqu'un, elle écrit, c'est comme un journal, n'est-ce pas? Elle écrit la réaction de la personne. Comme ça, elle peut savoir la prochaine étape, la prochaine visite. Qu'est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'elle peut s'exercer? Vous voyez? C'est... L'esprit est très précis. L'esprit, n'est-ce pas, et même pour prier pour quelqu'un, c'est difficile de prier pour quelqu'un si on ne le connaît pas. Et si on ne sait pas quelle est la prochaine étape, quel est le besoin de la personne, le plus qu'on peut prier, c'est Seigneur, sauve-le. Seigneur, prends soin de lui. Seigneur, gère sur son, sa vie. Mais c'est trop général, n'est-ce pas? Mais si on connaît, si on connaît la personne, même les prières deviennent plus précises. Et à ce moment-là, vous aurez du mal à... C'est-à-dire que vous aurez... Vous trouverez que vous n'avez pas assez de temps de prier. Parce qu'il y a tant de besoins, tant de choses, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui vient d'abord? L'esprit ou notre exercice? Je ne sais pas. Mais c'est... quand nous nous exerçons, l'esprit va œuvrer, n'est-ce pas? Voilà, c'est... Oui. Oui.
Je veux savoir, est-ce que c'est pour être, ou encore que je viens en plus, quand je lis le chapitre de l'île des As, je découvre le Seigneur a réveillé l'esprit des Sirius.
Oui.
Et puis l'esprit aussi de tous ceux qui sont partis.
Mm-hmm. Oui.
Je dis, est-ce que c'est pour être en tant que chrétien, que nous aussi nous puissions prier pour que le Seigneur réveille nos esprits? Je dis, est-ce que c'est.
Mm-hmm.
Est-ce une telle prière pour eux? Parce que parfois, tu vois que ta vie, tu es un peu endormi,
uh-huh.
Comme si tu étais indifférent un peu aux choses du Seigneur. Tu dis, ah, peut-être que mon esprit est endormi, viens réveiller mon esprit.
Mm-hmm.
Je veux savoir si c'est correct.
C'est correct. Oui, oui. Oui, là, je dirais, non, il n'y a pas de prière qui n'est pas correcte. C'est-à-dire, toute prière, c'est... autrefois, j'avais le sentiment ou l'idée que non, il y a certaines prières qui sont correctes, n'est-ce pas? Par exemple, non, on priait par exemple, Seigneur, fais de sorte que je sois gentil vers ma femme. Et autrefois, je pensais que cette prière était peu profonde. Alors, je priais, Seigneur, non, sois ma gentillesse vers ma femme. Mais plus tard, plus récemment, je me suis rendu compte. Oui, le Seigneur veut, il doit être tout pour nous, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Mais que là où je suis, je peux prier, n'est-ce pas? Et si c'est le cas où j'ai besoin de parler avec ma femme d'une certaine façon, pourquoi pas demander le Seigneur? Pourquoi pas de demander au Seigneur de me donner les mots, l'attitude, n'est-ce pas, correcte envers ma femme? C'est que il n'y a aucune prière, n'est-ce pas, qui n'est correcte. C'est toute prière est correcte. Donc même Seigneur, réveille mon esprit. Oui, oui, c'est très bonne prière. Même il y a des cantiques là où le Seigneur ranime nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que la prière, c'est une réponse à quelque chose que le Seigneur, comme tu l'as dit, que le Seigneur est en train de faire en nous. Autrement, pourquoi est-ce que nous prions? Même le fait que nous prions veut dire que le Seigneur a déjà fait quelque chose. Même le fait que nous puissions dire « Seigneur, réveille mon esprit » veut dire que le Seigneur est déjà en train de réveiller notre esprit. Même le péché, n'est-ce pas, l'incroyant qui dit « Seigneur, sauve-moi !» Ça veut dire que le Seigneur, déjà, était en train de le sauver. Autrement, pourquoi est-ce qu'il prie ? Il prierait, vous voyez ? Donc, toute prière est une réponse à l'œuvre de Dieu en nous. Je voyage quand je suis à Montréal, à Chicago, j'ai plusieurs dialogues, plusieurs lectures de la Bible avec différents groupes de frères et sœurs, donc des jeunes à Montréal, peut-être 5 ou 6, ça dépend de leur disponibilité. Et puis avec des anglophones et francophones. Sœur Michel. Michel est là avec Frère Cosmine, participe et d'autres frères et sœurs un peu plus âgés, n'est-ce pas? Et puis à Chicago avec 2 frères maintenant sur Skype, sur l'Internet. Et avec ce jeune frère face à face. Mais quand je voyage, n'est-ce pas, je ne peux pas. Donc une sœur sur Skype, j'ai vu à l'autre, j'ai pas pu lui répondre, mais elle m'a demandé quand est-ce qu'on va reprendre, n'est-ce pas? C'est vraiment, vous ne savez pas à quel point les frères et les sœurs ont besoin d'être nourris, n'est-ce pas, d'être nourris par la parole, d'être nourris par l'amour des frères et des sœurs. Et ça, ce sont des frères qui ne sont pas seulement à Montréal, mais ailleurs dans le monde. Une sœur en Chine qui était à Montréal avant, puis elle est repartie pour la Chine. Une sœur qui est à Boston, Massachusetts, Boston, qui est sur la côte de l'Est des États-Unis. Elle est à Montréal, mais elle s'est mariée et maintenant avec son mari et son enfant, ils habitent à Boston. Mais ils veulent continuer, n'est-ce pas, la lecture de la Bible. Donc, on ne sait même pas, n'est-ce pas, à Boston. Mais elle est là, cette sœur. Et il y a une autre sœur qui est là maintenant. On ne sait pas ce que le Seigneur peut faire. À Boston, il n'y a pas encore de témoignage. Mais nous semons. Il y a des graines qui sont semées. Et quand les saints, les frères et sœurs arrivent à connaître le Seigneur, il y aura quelque chose, n'est-ce pas, qui va sortir. Susciter une église à Boston. Oui, ça, c'est... On voudrait le faire, n'est-ce pas? Mais ce que le Seigneur a placé là, c'est le début. C'est le commencement, n'est-ce pas? Donc, il y a Monsoukro, n'est-ce pas? Korogo. Ah, vous êtes là, c'est déjà, n'est-ce pas, c'est un commencement. Comment est-ce que le Seigneur va susciter quelque chose? C'est au fur et à mesure que vous grandissez. Vous grandissez, vous connaissez le Seigneur, il y aura quelque chose qui va sortir. Mais c'est le contact personnel le contact personnel. Ah. Amen.
C'est vrai que nous avons tendance toujours à attendre. Mais je vais dire, tendance toujours à attendre à la réunion d'abord pour pouvoir prendre les nouvelles des saints, pour avoir quelques minutes avec eux.
Oui.
En réalité, c'est.
Amen. Oui. Oui.
6 jours. 6 années, oui.